Chapitre 12. Enquêtes et gendarmes. « Tu n'as aucun soupçon ?» demanda Élie en reprenant sa marche, les genoux un peu affaissés à chaque pas, ce qui le faisait paraître moins grand que Laurent. « Aucun. Je m'y perds. Je ferai mon enquête immédiatement dans les quatre maisons où l'on peut téléphoner. Mais ce coup de téléphone peut être parti d'ailleurs que du village. » « Voilà qui compliquerait les recherches, » dit Élie, dont toutes les rides dures se concentraient, se nouaient entre les sourcils et autour des lèvres. « Nous tenons de fait certain, la personne connaissait le nom du notaire de Madame Champieu, et elle savait que Madame Champieu avait communiqué à son notaire ton offre de t'occuper des réparations. Quand Madame Champieu a-t-elle fait cette communication ?»« Tout de suite après notre conversation, je suppose. » Elle m'a dit en effet qu'elle téléphonerait avant midi à son notaire pour avoir l'adresse d'un maître couvreur. D'où a-t-elle téléphoné ? Je n'en sais rien, mais je suppose qu'elle va chez Madame Denisée pour cela, comme tout le monde. Je vous quitte ici, père. Je prends la ruelle. Ne m'attendez pas pour le souper. Le passage étroit qui serpentait entre des cours de ferme, des murailles d'étables et de chartistes, débouchait finalement sous une voûte, presque en face du magasin Denisé. Laurent traversa la rue en deux enjambées, entra dans le magasin, si préoccupé qu'il oublia presque d'abaisser la pioche qu'il tenait sur l'épaule. Madame Denisé et son fils, accoudés épaule contre épaule au pupitre, vérifiaient ensemble une longue colonne de chiffres sur lesquels la mère faisait glisser par petites saccades le bout de son porte-plume fait d'une aiguille de porc-épic noire et blanche. La grosse lampe à pétrole suspendue au plafond sous un large abat-jour de tôle peint en blanc les éclairait d'une lumière crue. Le magasin était vide de clients, à cette heure où toutes les ménagères s'affairaient à préparer le souper pour leurs hommes. « Ah, bonsoir, monsieur Laurent !» dit madame Denisé avec son amabilité de commande. « Qu'est-ce qu'il y a à votre service ?»« Un lit pour ta poupée !» proposa François, qui n'avait pas encore tout à fait digéré sa petite rancune. « Voyons, voyons, François !» fit la mère. « Sois raisonnable, on n'en parle plus de cette poupée, n'est-ce pas ?» « Voyez-vous deux grands gaillards qui causent d'une poupée ? On se moquerait de vous. »« Voudriez-vous me dire, madame, » commença Laurent sans s'arrêter aux bagatelles de la porte, « si c'est d'ici que madame Champieu a téléphoné dans la matinée ?» La question fut si directe que la marchande allait y répondre par surprise. Mais comme elle ouvrait la bouche, son propre instinct l'arrêta en même temps que François la poussait du coude. « Ça, dit François trop gravement, c'est notre affaire. »« D'accord, c'est votre affaire, mais tu m'obligerais en me donnant ce renseignement. D'ailleurs, je peux l'avoir de Madame Champieu elle-même. Je peux aller lui demander, mais c'est pour gagner du temps. Et je vous ferai une autre question. Après Madame Champieu, car si elle n'avait pas téléphoné d'ici, vous auriez dit non tout simplement, après elle, une autre personne a téléphoné en prenant mon nom. » « En avez-vous connaissance ?»« Monsieur Laurent, êtes-vous bien sûr de ce que vous dites ?» s'écria Madame Denisé. « En tout cas, la chose ne s'est pas faite chez nous. Personne n'a téléphoné après Madame Champieu. »« Personne que nous sachions, » corrigea son fils. Elle le regarda, un peu saisie du ton très réservé qu'il prenait. « Tu peux compter sur notre discrétion, Laurent, » poursuivit François. « Je ne te la demande pas, au contraire, » fit Laurent avec un rire bref. « Je désire que cette affaire s'ébruite. Je l'éclaircirai plus facilement si tout le monde en parle. Quelqu'un, dans l'intention de me brouiller, soit avec Madame Champieu, soit avec les dames du pommier, a pris mon nom pour envoyer au notaire de Madame Champieu un message désagréable. « Est-ce possible ? Mais est-ce possible ? » s'écria Madame Denisé avec des apparences de grande consternation, quoique enchantée au fond, comme on l'est au village, d'un remous dans les eaux dormantes de la vie quotidienne. « En tout cas, monsieur Laurent, personne n'a demandé le téléphone après Madame Champieu. »« Personne que nous sachions, » répéta son fils avec insistance. « Mais comment veux-tu, François ? Il faut traverser le magasin pour aller à notre téléphone. » Laurent Mestru resta immobile une minute, dans l'espoir vague qu'une petite lumière allait luire. mais la mère et le fils ne disaient plus rien. « Excusez-moi de vous avoir dérangé, » fit le jeune homme, « je vais m'informer à la cure. » Quand il fut sorti, Madame Denizet se tourna vers François. « Il y a une chose bien simple à faire, » prononça-t-elle, avec un petit bruit dans sa gorge qui n'était pas un rire, mais une sorte de léger bêlement, trois fois répété, à bouche fermée, un petit « moqueur, indiquant sa supériorité et qui signifiait « Devant le monde, je te laisse parler, mon petit François, mais entre quatre yeux, tu n'es que le petit garçon que j'ai fessé bien des fois. » « Je vais, » poursuivit-elle, « sonner le bureau pour qu'on me dise combien de communications on a portées à notre compte aujourd'hui. » François approuva, hochant de la tête très longtemps, comme un mandarin de porcelaine, et tortillant sa moustache dorée qu'il essayait de tirer jusqu'à l'oreille dans sa préoccupation. Sa mère revint au bout de 5 minutes des régions obscures où elle avait disparu. « 3 !» fit-elle d'une voix un peu altérée. « La troisième, c'est moi, à 4 heures, pour ses pruneaux, tu sais ?»« Mais la seconde, avant midi, c'était pour la ville, à ce que me dit le bureau. »« Le bureau, naturellement, ne veut pas nommer l'abonné. »« Mais voilà 40 centimes avec la taxe d'abonnement qui nous reste sur les bras. »« J'appelle ça une filouterie !» s'écria-t-elle exaspérée. « S'introduire chez nous pour téléphoner gratis ?»« Il s'agit bien de ces 40 centimes, » dit François. » Sa mère le regarda sous la lampe, en plein dans sa figure rose et ses yeux bleus. « François, » articula-t-elle, « tu me caches quelque chose. Tu sais ?» Une lueur montait dans son esprit. « Tu sais qui a téléphoné ?» Pareil à un pauvre oiseau hypnotisé, il cligna des yeux, il s'effara. « Est-ce toi ?» poursuivit la mère. « Ah, tu ne voudrais pas ? » protesta-t-il. « Alors, qui est-ce ? Je ne te le dirai pas, c'est très grave. » Il jouissait énormément de la situation tout à coup. « Tu ne me le diras pas ?» cria la mère qui en croyait à peine ses oreilles. « Tu veux donc te brouiller avec moi ?»« mais non, maman. Seulement, vois-tu, c'est une affaire, une grosse affaire. » « Laisse-moi réfléchir un peu et voir ce qu'on en pourra tirer. »« Je sais garder un secret et même mieux que toi, » insista Madame Denizet. « Si tu ne me le dis pas tout de suite, c'est fini, tu sais, d'avoir du cacao à l'avoine pour ton déjeuner. »« Ah !» soupira François, « les femmes tiennent toujours le manche. » Il se décida. Faisant de ses deux mains un cornet, il mit sa bouche à la hauteur de l'oreille maternelle et souffla un nom. Madame Denizet recula, impressionnée. « Ne me dis pas ça » exclama-t-elle. « Parfaitement, c'est comme je te le dis. Eh bien, voilà du propre !» Laurent sonnait à la porte de la cure. On l'introduisait par le petit vestibule plein de fumée de pommes de terre frites dans le cabinet de travail de M. Lyonnais. Le passeur arriva au bout de 5 minutes, se frottant les mains, ce qui lui donnait une contenance et un air de cordialité. « Ce n'est pas la peine de m'asseoir, merci, » dit Laurent. « Je voudrais savoir seulement si, aujourd'hui, avant midi, quelqu'un est venu à la cure pour téléphoner sous mon nom. »« Sous ton nom, aujourd'hui, avant midi ?»« Voyons. Mais c'est que je suis absent, moi, presque toute la journée, tu sais, » fit le passeur un peu éperdu. « Sous ton nom, qu'est-ce que tu me racontes là ? Seriez-vous assez obligeant pour le demander à madame ? Hein, à ma femme ? Attends un peu, si c'est une chose plutôt particulière, ne crois-tu pas qu'il vaudra mieux la garder entre nous ? Au contraire, je désire qu'elle se répande, » persista Laurent. « Dans ce cas, ma femme est là, » dit M. Lyonnais, trop troublé pour être suspect d'ironie. « Je vais voir, je vais la questionner. » La petite personne ébouriffée, pomponnée, bruissante, se précipita 2 minutes après et assaillit Laurent de questions pointues qui ressemblaient au coup de bec d'une mésange. Elle ne fut pas longue à décortiquer cette noix. « Ce n'est pas à la cure que la chose s'est faite, malheureusement, » dit-elle. « Mais je vais mener ma petite enquête. Demain, j'aurai le mot de l'énigme. N'en doutez pas, monsieur Laurent. » « C'est un rival à vous, cela va sans dire. Un rival amoureux. Nous serons vite sur la trace. Étant donné la personne que vous aimez, quelle autre personne aime la même personne que vous ? Voilà tout le problème. Maintenant, comme vous le dites très bien, le message peut être parti de la ville, quoique ce ne soit guère probable. C'est très amusant, en tout cas. Je veux dire que c'est bien triste, certainement. Non, mon ami, je ne dis rien de contraire à la morale, puisque je dis que c'est bien triste. Car son mari lui adressait des signaux de réprobation. La famille Sébastien allait se mettre à table pour le souper quand un coup de sonnette très vif retentit dans le corridor. La bonne vint dire un instant après qu'on demandait monsieur. « Tâche de revenir tout de suite, Sébastien. Les œufs sur le plat froidissent si vite, » dit sa femme. Mais il fut bien 10 minutes avant de reparaître. Et il soufflait et il faisait « peu, peu, peu » en gonflant les lèvres comme un homme qui va dire « en voilà de belles. » « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Madame Angélique, impatientée. « Tout à l'heure, ma chère, ça ne froidit pas, tandis que les œufs... » Il coupait sans se presser le crouton de pain frit. Il moulait du poivre. « C'est heureux, » dit-il à bouche pleine, « que je ne sois pas sorti ce matin. Comme ça, je suis sûr de mes affirmations, si jamais la justice s'en mêlait. »« La justice ?» crièrent à la fois sa femme et son fils. Myriel semblait indifférente. Elle jouait avec sa fourchette. Tout l'ennuyait. Sa surexcitation du matin était tombée. « Figurez-vous, » poursuivit Sébastien entre ses bouchées qui se rattrapaient, « figurez-vous qu'un quidam mal intentionné a téléphoné ce matin en prenant le nom de Laurent Mestru. « Pourquoi faire ?» demanda Louis, intéressé. « Pour l'embêter, évidemment. Pardon, Angélique, mais c'est un fait, pour brouiller ses cartes avec le château. » « Le château ?» exclama sa femme, comme si on fût allé sur ses brisées en ennuyant le château. « Parfaitement, le château, Madame Champieu, ma belle-mère. On n'en finit pas de lui jouer des tours à cette pauvre femme. C'est à la dégoûtée du pays. »« Le ciel t'entende, » dit Madame Angélique avec ferveur. « Mais comment Laurent Mestru est-il fourré là-dedans ?» Son mari expliqua l'imbroglio du mieux qu'il put. Laurent, qui ne tenait pas le moins du monde à en faire mystère, lui avait donné la version complète et exacte de l'incident pour qu'elle fût répandue telle qu'elle. « Mais c'est fou !» dit Madame Sébastien. « Pourquoi en parle-t-il à chacun? Quelle rumeur ça va faire dans le village, surtout si Madame Lioumenet mène le branle. Tu ne dis rien, Myriel ?»« Ça ne m'intéresse pas du tout, » fit-elle dédaigneuse. « C'est cancan de petit village. Dieu, que c'est assommant, je donnerais 100 sous pour être née ailleurs. » C'est vrai qu'on choisit ses parents bien à la légère, dit Louis avec l'impertinence que sa mère excusait toujours, que son père avalait plus péniblement. Madame Sébastien frétillait de hâte d'être au lendemain. J'irai voir Madame Clotilde comment elle prend la chose. Myriel poussa un éclat de rire aigu, nerveux. J'irai aussi, fit-elle, j'aime à danser au bord d'un abîme. Est-ce que tu délires ? Demanda son père. Le lendemain, on ne parlait dans Fontfraîche que de cette affaire de téléphone. À 9 heures, on tenait déjà 12 solutions, toutes contradictoires. Même le brigadier de gendarmerie s'en occupait et, avant de s'en aller, requis pour tout le jour à la ville où il devait renseigner la justice sur un vol de fagots, il laissa des instructions sévères à son subordonné, un jeune pendeur arrivé de la veille et qui ne connaissait rien ni personne dans le pays. « Ouvre l'œil et le bon, lui dit-il. Surveille les rôdeurs. Il y a déjà cette histoire de soi-disant cambriolage au château qui n'a jamais été éclaircie. Et ce coup de téléphone, c'est à Madame Champieu qu'on en veut. Une femme seule. Si elle ne peut pas compter sur la gendarmerie, sur qui peut-elle compter, je te le demande. » Aux gens suspects, tu réclames leurs papiers, et s'ils ne peuvent pas les produire, en avant, marche au poste. Je serai rentré vers les 8 heures. » Pandore, dont le propre nom était d'ailleurs Ulysse Clampin, ouvrit les yeux, les oreilles, et se promena tout le jour aux abords du village d'un pas régulier, patrouillant tout seul et se faisant des rapports à lui-même. Jusqu'à 5 heures, il n'aperçut rien de suspect, mais à 5 heures précises, il tomba en arrêt devant un vagabond. Coiffé d'une peau de lapin crasseuse et râpée, un gilet de laine effiloché pendant sur ses hanches et laissant voir des trous aux aisselles, le pantalon fangeux bâillant aux chevilles et les souliers rougis d'humidité s'ouvrant pour donner de l'air aux orteils, le pauvre air s'en venait, baissant la tête, très absorbé dans une méditation dont le texte était probablement sa poche vide. Halte là, dit Ulysse Clampin, se campant devant lui dans le chemin étroit, bordé de deux ornières, qui, à partir de la terrasse du château Champieu, traversait en diagonale tout le domaine du coin du coin. Le vagabond leva la tête d'un air surpris et, sans rien dire, obliqua vers l'ornière de gauche pour continuer sa marche. « Je dis halte là !» répéta le gendarme. « Et quand je dis halte là, c'est pas pour qu'on aille son train !» Il prenait une grosse voix pour donner du volume à sa conviction. « Voyons, voyons, du calme !» fit l'homme au bonnet de lapin. « Qu'est-ce que vous voulez? Il y a erreur !»« Montrez vos papiers, on verra bien s'il y a erreur !»« Mes papiers ?»« Oui, vos papiers. Où sont-ils, vos papiers ?»« Pas sur moi, en tout cas !» fit Élie Mestru qui voulut écarter le gendarme. « Voyons, mon garçon, ne faites pas la bête. Il faut que vous soyez bien nouveau dans la commune. » « Insulte à la gendarmerie et d'une, » constata Ulysse Clampin. « Refus d'obtempérer et de deux. Absence de papier et de trois. Il se peut que je sois nouveau dans l'endroit, mais j'ai le droit d'y être. Et vous, depuis combien de temps y séjournez-vous ? » « Depuis 56 ans. » dit le loqueteux qui se mit à rire. C'était pousser la plaisanterie un peu loin. Le gendarme saisit par le bras l'homme suspect. « En marche, dit-il, tu t'expliqueras au poste. »« Vous vous faites une mauvaise affaire, » fit Élie Mestru ennuyé. « Je suis un communier, j'habite Fontfraîche depuis toujours. Je suis le propriétaire du domaine où nous sommes en ce moment. Comprenez-vous, je suis Élie Mestru du coin du coin. » Peut-être que, s'il n'avait pas ajouté cette dernière phrase, le gendarme eût consenti à examiner la première assertion. Mais toute sa raison se révolta contre la seconde. Il fixa un œil sévère sur la misérable loque de lapin, puis ce regard descendit, degré par degré, s'arrêtant à chaque trou, à chaque effilochure, à chaque évidence de sordide pauvreté. « Toi, un propriétaire, » fit Ulysse avec une ineffable ironie. « Si tu disais chiffonnier, oui, alors on pourrait causer. »« Ah, pas de ça !» s'exclama-t-il comme Élie Mestru essayait de le devancer. « Te cavale pas. Pour ce qui est de te carapater, je carapate plus vite que toi. » Cela, c'était évident, et d'ailleurs, une fuite ignominieuse, une poursuite dont le résultat n'était pas douteux, présentait trop d'inconvénients pour qu'Élie y pût songer. Il se résigna. Silencieusement, il marcha à côté du gendarme. Il se disait « Pourvu qu'on ne rencontre pas trop de monde. On parle trop des Mestru pour mon goût cette semaine. D'abord la poupée, ensuite le mystère du téléphone. Si l'on apprend que je me suis fait arrêter comme vagabond, ce sera complet. Supposons que je croise le pasteur ou Sébastien Champieu, il témoignerait de mon identité naturellement. Mais tout le village en bourdonnera comme une ruche d'abeilles. » Son fils était parti dans l'après-midi pour la ville afin de recueillir chez Maître Marquis quelques renseignements sur les termes mêmes du message téléphonique, sur le timbre de voix entendu, sur l'heure exacte, détails qui fourniraient peut-être une clé à l'énigme. C'est ainsi qu'Élie Mestru rentrait seul des champs ce soir-là, ses deux domestiques ayant rejoint par un détour la grande route plus unie à cause de coquins qui perdaient un fer. La première lampe brillait derrière les croisillons de la petite maison à arcades où le locataire s'embusquait comme une araignée à l'affût des nouvelles. Un rideau blanc bougea. Ensuite, une petite fille, portant un panier, fila sur le trottoir, leur jeta un coup d'œil. Et alors, Élie Mestru s'abaissa jusqu'à parler amicalement avec le gendarme de la pluie et du beau temps, comme on cause avec un brave pandore qu'on a rencontré par hasard faisant sa tournée. Il n'osait même souhaiter qu'une connaissance le saluât par son nom, car l'explication serait publique, ce qu'il fallait éviter à tout prix. La montée du village lui parut longue. Ulysse ne répondait que par brusques monosyllabes à ses avances de conversation. Enfin, la lanterne du poste apparut, éclairant les 10 marches de pierre. Élie hésita un instant, mais il reçut dans le dos une poussée qui faillit mettre en déroute ses résolutions prudentes. Il se retourna, et ses yeux, sur leurs gros sourcils, dardèrent d'une telle flamme de colère qu'Ulysse sentit que son zèle l'avait entraîné un peu loin. Il ouvrit la porte. « Entrez !» sans joindre aucun geste à l'invitation verbale. La pièce était obscure. Élie Mestru alla en tâtonnant s'asseoir dans un coin, sur le banc, et il resta là, immobile et silencieux, le buste penché en avant, les deux mains serrées entre ses genoux, tandis que le gendarme allumait la lampe du plafond. « Où est le brigadier ?» demanda Élie au bout de quelques minutes. « Absent. Il rentrera à 8 heures. Et vous allez me retenir jusqu'à son retour, c'est un peu trop prolongé la plaisanterie, » dit le vieux paysan qui se leva. « Je veux éviter un esclandre, pour vous autant que pour moi, mais laissez-moi partir, je vous dis !» Pour toute réponse, Ulysse se dirigea vers la porte, donna un tour de clé dans la serrure, puis revint, l'air intensément pénétré de sa responsabilité. « Par file à gauche » prononça-t-il. Il ouvrait une autre porte et, tenant Élie par le bras, il le dirigeait à travers un petit corridor sombre jusqu'à la pièce étroite, faiblement éclairée par un soupirail que les enfants de Fontfraîche appelaient le croton et d'où ils entendaient souvent sortir les gémissements ou les chansons de quelque ivrogne. « Ça y est, j'y suis, me voici au croton !» pensa Élie avec une sorte d'horreur que tempérait le ridicule de la situation. Il ne faisait plus aucune résistance, tant il sentait que la logique du stupide incident devait se dérouler jusqu'au bout. Crier, se colleter avec le gendarme, ameuter 2 ou 3 passants, précipiter enfin la catastrophe et la révélation. Élie Mestru haussa les épaules, s'assit sur l'escabeau et laissa tomber son menton sur ses 2 poings. Le gendarme était sorti, la clé avait grincé. Les minutes se traînaient, incroyablement lourdes et longues. « Dès que le brigadier rentrera, dites-lui que vous avez arrêté un vagabond nommé Élie Mestru, » avait fait l'orgueilleux paysan. « Ce contempteur de l'opinion publique, celui qui disait toujours « Qu'importe mon habit, on sait qui je suis. » Et le gendarme, frappé du ton demi-sérieux, demi-ironique de cette espèce d'ordre, s'était arrêté 1 seconde sur le seuil. « En règle, » avait-il répondu, faute de savoir mieux dire. Élie Mestru parlait seul avec ses réflexions. Personne ne se connaît. Il n'avait pas cru qu'il eût l'air d'un vagabond à ce point, au point d'être arrêté et mis au croton. Sans doute, son broustou était troué, son pantalon n'était pas neuf. Mais est-ce que le visage d'un homme qui commande chaque jour à 2 domestiques, sans compter les journaliers et Fanelli, est-ce que son allure, son langage sont ceux d'un vagabond? Ce gendarme était peu physionomiste. Quelle tête il allait faire tout à l'heure! Élie essayait de ne point sentir le goût amer de l'humiliation, il essayait même de la trouver drôle. Lui, le maître du coin, arrêté sur son propre domaine, cet imbécile de gendarme l'avait même poussé dans le dos. À ce souvenir presque physique qui faisait tressaillir et se hérisser son épiderme, une brûlure montait à ses vieilles joues, à son front ridé, à ses tempes déshabituées de rougir. L'affront était intolérable. Élie se leva, promena ses pas agités à droite, à gauche, bientôt arrêté par la muraille qui limitait les 3 espaces. La vague, lente à monter, se gonflait, emplissait la poitrine, la gorge, allait faire crier et craquer. Ce fut une fureur folle et courte, comme ce cachot en avait vu souvent. Élie tenait au bout de ses doigts le bonnet de lapin mou et gluant comme une bête morte. Tout à coup, il le saisit entre ses 2 mains, le tira, le déchira en 2, jeta les morceaux loin de lui, puis les pourchassa, les piétina. « c'est fini !» murmurait-il sourdement. « mon Dieu, que ce soit fini !» Il se laissa retomber sur l'escabeau. Que voyait-il dans les demi-ténèbres? Son image peut-être, plus scandaleusement haillonneuse qu'elle n'apparaissait aux yeux habitués de l'entourage. Sa vie de maniaque apathique, les chaînes de sa bizarre inertie, son dégoût de toute chose, son indifférence pour la maison morte où Laurence n'était plus. Se voyait-il? Terrible vision devant laquelle nous étendons des voiles, nous tous, tant que nous sommes. Les heures passaient, on entendait frapper les demi, les quarts, à l'horloge du clocher. et c'était des résolutions aussi que martelait cet airain dans une volonté ressuscitée. Élie se parlait à lui-même et il y avait à présent comme un rire de triomphe dans les phrases entrecoupées. « Je reprendrai ma place. Laurent pourra se marier. Je lui bâtirai une maison. Fanélie va être étonnée. Je m'habillerai de neuf. J'en causerai avec le pasteur. Laurence, Laurence, si tu m'as vu, tu en as eu du chagrin. J'aurais dû penser à ça. » Vers 8 heures, des voix se firent entendre, d'abord unies, monotones. Élie pensa, c'est le gendarme qui fait son rapport. Puis il crut saisir une intonation plus haute et des exclamations. Enfin, un pas retentit dans le petit couloir. Alors, un accès d'horrible timidité s'empara d'Élie Mestru. Il aurait donné n'importe quoi pour retarder le moment où la porte s'ouvrirait. Il se leva pour avoir l'air d'un homme libre qui se promène les mains dans ses poches et non d'un prisonnier affalé sur son escabeau. Et pendant les 2 minutes qui suivirent encore, il eut le temps de se dire « Si j'avais vécu comme tout le monde, si j'avais fait mon simple devoir, au lieu de m'entêter à être un égoïste et un demi-fou, je ne serais pas ici comme une bête enfermée. » La sensation de captivité et de ne pouvoir se dérober avant que le brigadier entrât le saisit, l'enveloppa de honte, de révolte, surtout d'un vrai mépris pour lui-même. L'écroulement, commencé des mois auparavant par des petits coups de sape, était complet. La porte s'ouvrit, le brigadier parut sur le seuil, élevant dans sa main une petite lampe à réflecteur. Monsieur Mestru, fit-il au bout d'un instant, d'une voix enrouée et émue. « C'est une erreur, une déplorable erreur. »« En êtes-vous sûr ?» demanda le paysan d'un ton un peu goguenard. « Votre brave gendarme est comme les chiens qui n'aiment pas les gens mal habillés. »« Si vous le prenez ainsi, » murmura le brigadier qui s'était attendu à une tout autre algarade. « Oui, c'est ainsi que je le prends. Je n'en dirai rien, vous n'en direz rien. Entendu ?»« Parfaitement, monsieur Mestru, je vous en remercie. » « Faites-moi sortir par l'autre porte. Je ne tiens pas à rencontrer Pandore. »« Ulysse Clampin, monsieur Mestru. » Ulysse était, si je ne me trompe, un personnage très malin dans l'Antiquité. « Bien possible, monsieur Mestru. En tout cas, monsieur Mestru, ne lui gardez pas rancune. »« Comment donc, brigadier ? Au contraire. »